Lequel d'entre nous ne s'est pas dit un jour, ah, j'aimerais vraiment avoir Jésus en face de moi pour pouvoir lui poser toutes les questions que j'ai. Nous avons tous plein de questions à poser à Jésus. Mais nous savons que Jésus n'est pas là, alors nous nous disons, quand Jésus reviendra, ah, j'aurai plein de questions à lui poser. Et on se réjouit de voir Jésus revenir pour qu'il nous donne la réponse à toutes ces questions que nous n'avons pas. Mais si vous lisez les évangiles, vous vous rendez compte que Jésus répond rarement aux questions qu'on lui pose. Ou bien alors, lorsqu'on lui pose une question, il répond à côté. Ou disons plus exactement, il répond à la question telle qu'on aurait dû la poser probablement, pas de la manière dont on l'a posée nous. Ou bien alors, Jésus renvoie la question. On lui pose une question et il propose à son interlocuteur de trouver lui-même la réponse. On a des exemples intéressants dans la parole de Dieu. « Qui est mon prochain ?» Jésus va raconter une parabole et dire « Maintenant, réponds à ta question. Qui est ton prochain ?» Ou bien alors, les disciples vont se rendre compte que la foule est affamée. Jésus va leur dire « Donnez-leur vous-même à manger. » Ou encore « Faut-il payer l'impôt ?» Jésus prend une pièce de monnaie. À qui appartient cette pièce? Et ainsi, Jésus conduit les personnes qui viennent à lui à donner elles-mêmes la réponse à leurs propres questions. Ceux qui s'approchent de Jésus sont invités à répondre à leurs propres questions. C'est parfois un peu frustrant de poser des questions à Jésus, au point où l'Évangile nous dit que certaines personnes, finalement, n'ont plus osé poser des questions à Jésus de peur d'être eux-mêmes embarrassés par la manière dont Jésus allait gérer les questions. Mais nous avons plein de questions. Ce qui est probablement plus intéressant que les questions que nous avons à poser à Jésus sont les questions que Jésus a à nous poser à nous. Et Jésus a posé des questions à ses disciples. Et je crois que lorsque Jésus posait des questions à ses disciples, il voulait les amener à réfléchir un peu plus loin, à faire un pas de plus dans la relation qu'ils avaient établie avec lui. Et si Jésus posait ces questions à ses disciples autrefois, j'ai la conviction qu'il pose les mêmes questions à ses disciples d'aujourd'hui. Avec le même objectif d'ailleurs, avec le désir de nous faire réfléchir un peu plus loin que d'habitude, de nous amener à faire un pas de plus dans la relation que nous voulons établir avec lui. J'aimerais aujourd'hui voir avec vous trois questions que Jésus pose à ses disciples. Trois questions très importantes par lesquelles Jésus veut vraiment conduire ses disciples à aller un pas, et puis un pas, et puis un pas plus loin. De cette manière, Jésus nous invite aussi à faire un pas de plus avec lui. Jésus était devenu très populaire. Les miracles qu'il avait faits attiraient des foules nombreuses, et Jésus a décidé de prendre des vacances avec ses disciples. Il est parti tout au nord du territoire d'Israël, dans la contrée de Césarée de Philippe, à l'endroit où se trouvent les sources du Jourdain, pour être seul avec ses disciples, tranquille et les instruire. Cet événement nous est raconté dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16, où il nous est dit que Jésus est avec ses disciples seul et qu'il parle avec eux. Et Jésus va leur poser une question et leur demander « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Autrement dit, vous entendez les gens parler autour de vous? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que vous entendez les autres dire à mon sujet? Répéter ce que les autres disent, ça, c'est pas difficile. On a écrit des thèses de doctorat épaisses comme ça, où l'on répète simplement ce que les autres ont dit. C'est très simple à faire. C'est une question du style, qu'est-ce que les adventistes disent sur ceci ou cela? Et il suffit de répéter ce que les autres disent. Ça ne nous engage pas à grand-chose, effectivement. Et j'imagine facilement les disciples répondre à cette question facile. Ils ont entendu les gens parler et ils répètent ce qu'ils ont entendu. Et Jésus écoute. Oh, les uns disent que tu es Jean-Baptiste réincarné. Les autres pensent que tu es Élie qui est revenu selon les prophéties de Malachie. Les autres pensent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es un prophète. Et les disciples vont dire spontanément ce qu'ils ont entendu des uns et des autres par rapport à Jésus. Il y a toutes sortes d'avis différents. Et les disciples ne s'attendaient pas à la vraie question qui arrive après. Très bien, Intéressant de savoir ce que les gens disent sur moi, dit Jésus. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Je pense que les disciples ne s'attendaient pas à cette question-là, qui est très différente de la précédente. Dans la précédente, il faut simplement répéter ce que l'on a entendu. Cette fois-ci, il faut dire ce qu'on pense. Et là aussi, il y a mille et une réponses à cette question-là. Qui est Jésus pour moi? Est-ce que Jésus est un homme de bien? Jésus, c'est peut-être celui dont on parle dans les églises. Jésus, c'est celui que je prie quand ça ne va plus, quand ça va mal, quand j'ai un problème, alors c'est lui que je prie. Jésus, c'est qui? C'est celui qui est sur les crucifix que l'on trouve parfois au coin des rues. Jésus, c'est une bonne carte de visite quand on vit dans une société très croyante. Jésus, c'est la superstar des Jesus People, dont on va chanter les louanges aujourd'hui avec du rock chrétien. Jésus, c'est celui qui fait des miracles. Jésus, c'est le Dalai Lama des chrétiens. Jésus, c'est celui dont j'ai reçu l'instruction quand j'étais jeune. Jésus, c'est le Dieu de mes parents. Et vous pouvez continuer ainsi de dire ce que Jésus peut être pour les uns et pour les autres. Qui est Jésus pour moi? Et Jésus est devant ses disciples, il leur dit, j'ai compris ce que les autres pensent de moi, mais j'aimerais savoir ce que vous, vous dites à ce sujet-là. Question beaucoup plus embarrassante. C'est la question qu'on a posée finalement à Pierre quand il était au bord du feu pendant le jugement de Jésus. Tu es aussi un disciple de ce Jésus-là, n'est-ce pas? C'est la même question. Et soudain, les disciples se rendent compte que même s'ils vivent avec Jésus 24 heures sur 24, ils ont besoin à un moment particulier de se positionner par rapport à Jésus, d'être clair sur le type de relation qu'ils veulent établir avec lui. Ils ont besoin à un moment particulier de dire clairement qui il est pour eux. Et c'est ce que Jésus demande. Jésus ne demande pas grand-chose, il demande simplement ce que nous appellerions aujourd'hui une profession de foi. Qui est Jésus pour toi? Dis-le. Autrement dit, dis tout fort ce que tu penses au sujet de Jésus. Et c'est important. C'est important parce que, souvenez-vous de ce que Jésus a dit. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, Jésus dit « Quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » L'attitude de Jésus à mon égard va dépendre de ce que je considère qu'il est pour moi. C'est donc important que je sois capable de dire qui est Jésus pour moi. C'est important que je puisse le lui dire, c'est important que je puisse le dire aux autres. Qui est Jésus? Cette question, c'est sans doute la première que Jésus va nous poser. Une profession de foi. Qui est Jésus pour toi? Peut-être que vous entendez cette question pour la première fois aujourd'hui. Peut-être que vous l'entendez à nouveau parce que vous n'avez pas encore répondu la première fois qu'elle vous a été posée. Qui dis-tu que je suis? C'est cette première question par laquelle tout commence dans notre relation avec Jésus. Qui est-il? Et dans le contexte de l'histoire que nous regardons, il était nécessaire, et pour Jésus et pour les disciples, de clarifier cette question-là. Le chemin que nous allons parcourir ensemble fait comprendre Jésus à ses disciples. Il sera différent en fonction de ce que vous allez admettre que je suis pour vous. Qui suis-je pour vous? Et là encore, il y a mille réponses. Comme pour nous, il y a mille réponses. Et Jésus attend de savoir quelle réponse nous allons donner. Jésus attend en fait que nous lui donnions la réponse que Pierre a donnée dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16 et au verset 16. La réponse de Pierre nous est donnée. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dans cette réponse, Pierre est en train de dire, « Je reconnais que tu es le Messie, celui que la prophétie annonce, celui que nous attendons. Je reconnais que tu es mon sauveur. Je reconnais que tu es Dieu venu parmi les hommes pour sauver les hommes, moi inclus. Pierre, de la part aussi des autres disciples, reconnaît que Jésus est Dieu venu le sauver. C'est la réponse que Jésus voulait entendre. Et je crois que c'est la réponse que Jésus voudrait nous entendre dire aussi aujourd'hui. En réponse à cette première question que le Seigneur nous pose, qui est Jésus pour vous? C'est la première qu'il pose dans notre marche avec lui. Qui est Jésus pour vous? Lorsque nous aurons répondu à cette première question, Jésus viendra nous en poser une autre, toujours avec l'objectif de nous amener un pas plus loin dans notre contact avec lui. La deuxième question que Jésus pose à ses disciples nous est racontée dans l'Évangile selon Jean au chapitre 6. Évangile selon Jean, chapitre 6. Jésus, selon le texte qui nous est rapporté ici, vient d'accomplir ce fameux miracle de la multiplication des pains. Un miracle impressionnant dont des milliers de personnes ont été témoins. Tous ont vu ce que Jésus a fait. Et tous ont pensé, c'est lui que nous attendons. Ils ont d'ailleurs voulu, sur le coup, le faire roi tout de suite. Le lendemain, tous ces gens qui étaient avec Jésus et qui ont été impressionnés par son miracle vont faire le tour du lac pour le retrouver, lui qui a traversé pendant la nuit. Et Jésus, le lendemain, va se retrouver avec une grande foule aussi de ceux qui étaient là la veille. Et il va parler à ces gens et prononcer ce discours que nous avons dans l'Évangile et que nous appelons le discours sur le pain de vie. Mais les gens qui sont là vont écouter le discours de Jésus au premier degré, littéralement. Jésus est parti du pain dont il les a nourris la veille et il essaye de les amener à comprendre qu'il y a aussi une nourriture spirituelle qui est importante pour eux. Mais ils en sont toujours au casse-croûte, eux. Et Jésus va leur dire des choses difficiles à comprendre dans ce contexte-là. Regardez par exemple dans l'Évangile de Jean au chapitre 6. Jésus va leur dire par exemple au verset 53. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Mettez-vous dans les sandales de ces gens qui sont encore impressionnés par le pain qu'ils ont mangé la veille, tout droit sorti des mains du Christ, qui aujourd'hui l'entendent dire « Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Ces gens qui connaissaient les pratiques païennes des peuples environnants sont pratiquement dégoûtés de la façon dont Jésus leur parle. Ce n'est pas du judaïsme, ça c'est du paganisme. Et beaucoup de gens commencent à se dire « Est-il vraiment celui que nous pensions ?» Son discours ne marche plus maintenant. Et un peu plus loin dans le même chapitre, nous lisons le verset 60 où il est dit « Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et au verset 66, « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. » Plusieurs se sont dit « C'est bien joli, mais ce n'est pas ce que je croyais. » On avait voulu faire de lui un roi, et lui-même n'a pas voulu. Maintenant, il nous dit de boire son sang, de manger sa chair. Ils ne vont pas chercher plus loin. C'est trop difficile à comprendre, c'est trop dur à écouter. Ils s'en vont. Et Jésus va s'approcher des 12, ceux qui sont plus proches de lui. Et il va leur poser la deuxième question. C'est le verset 67. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Jésus avait demandé aux disciples une profession de foi. Il avait demandé aux disciples de dire qu'il était pour eux. Et ils ont dit, « Tu es le Messie, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. » C'est bien. Maintenant, Jésus ne leur demande pas une profession de foi, il leur demande d'agir. Les autres s'en vont parce qu'ils n'ont pas compris, parce qu'ils sont déçus peut-être dans leurs attentes. Vous maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire? Partir aussi ou rester avec moi et me suivre? Jésus leur offre le choix, mais il attend la réponse. Et là encore, Jésus les amène à faire un pas de plus. Il est nécessaire de dire qui est Jésus pour nous, mais après, il faut que nos actions suivent en conséquence de cela. C'est ce que Jésus leur demande. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre tout le temps? Est-ce que vous êtes prêts à me suivre quand vous ne comprenez pas, comme ceux-là qui s'en vont maintenant? Et je me pose la question, il est vrai que dans la vie chrétienne, il y a une foule de choses que nous ne comprenons pas. Dans l'action de Dieu, pourquoi Dieu a-t-il agi comme ceci? Et même dans les Écritures, nous nous posons la question, certains événements racontés dans les Écritures nous laissent perplexes. Pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus même dans la souffrance? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus quand il ne répond pas à mes prières comme j'avais pensé qu'il le ferait? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus quand on se moque de moi à cause de ma foi? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus quand Jésus m'en demande trop? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus quand il me demande de lui donner un jour sur 7? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus quand il me demande un dixième de mon revenu pour prêcher l'Évangile? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus quand il me demande d'être participant dans l'Église, même si l'Église est loin, que ça me demande un long temps de déplacement? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus quand l'école du sabbat commence de bonne heure? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus quand il me propose une morale différente que la morale des gens qui m'entourent aujourd'hui dans le contexte contemporain? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus quand ma fidélité va peut-être m'amener à perdre mon travail, perdre mes amis, parce qu'il passe en premier? Est-ce que je suis prêt à suivre Jésus? Et c'est ce qu'il demande à ses disciples, c'est ce qu'il demande aujourd'hui. Tu m'as reçu comme ton sauveur, c'est bien. Maintenant, est-ce que tu es prêt à me suivre? Et suivre Jésus, finalement, concrètement, ça se traduit par obéir. Prêt à obéir au Christ. Il ne me demande pas cette fois-ci des paroles. Il me demande des actions conséquentes à ce que j'ai reconnu que Jésus était. Il veut par conséquent un engagement qui soit un engagement pratique. Est-ce que je suis prêt finalement à m'engager concrètement pour le Christ parce que j'ai dit qu'il est mon sauveur? Est-ce qu'il y a des actions qui vont suivre d'une manière conséquente par rapport à cela? C'est la deuxième question que Jésus pose à ses disciples, c'est aussi la deuxième question que Jésus pose à ses disciples d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu cette question? Est-ce que vous y avez répondu de la même manière que Pierre et les autres disciples? Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 6, au verset 68, le texte nous donne la réponse que Pierre a donnée à Jésus. Il est écrit: Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Le Seigneur attend aujourd'hui que nous lui donnions aussi cette même réponse. « Seigneur, il n'y a pas d'autre solution pour nous. Qui veux-tu que nous suivions d'autre? » Oh, je sais que le monde d'aujourd'hui nous propose une foule de gens à suivre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous donne le choix. Mais il voudrait que pour nous, il n'y ait pas 36 choix possibles, mais un seul. Le seul qui conduise à la vie éternelle, le seul qui soit logique, le seul qui lui permette de faire quelque chose pour nous et avec nous. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? À qui d'autre? Car enfin, tu es le seul qui peut nous accorder la vie éternelle. Le seul. Lorsque nous aurons répondu à cette deuxième question, Le Seigneur viendra et nous en posera une troisième. Encore une fois, parce qu'il voudra nous pousser un peu plus loin, faire un pas de plus dans notre relation avec lui. Les disciples ont été totalement perturbés par la mort de Jésus et par sa résurrection. Ils avaient dans leur tête un programme tout à fait différent. Et ces deux événements les ont laissés totalement démunis. Jésus leur avait donné rendez-vous en Galilée. Et ils sont allés en Galilée, dans ces lieux qu'ils connaissaient bien, chez eux finalement, pour la plupart d'entre eux. Et ils se demandent ce qui va arriver. Ils ont à l'esprit tous ces événements qui ont entouré la crucifixion. Pierre a ces images obsessionnelles de ce qui s'est passé dans la cour. Ils ont vu la croix de loin. Ils ont vu le tombeau vide. Ils l'ont vu, mais c'est bizarre maintenant. Ils se sentent mal parce qu'ils se sentent tellement misérables. Après avoir dit « Seigneur, nous irons à la mort avec toi » et être capable de le renier quelques heures après. Ils sont là en Galilée, ne sachant pas comment ni où Jésus va les retrouver. Ils sont au bord de ce lac qu'ils connaissent bien, sur lequel ils ont pêché. Pierre est avec 6 autres disciples. Et finalement, Pierre, évidemment, premier à parler, dit « Allez, venez les gars, on va pêcher du poisson. » Et ils partent. Et vous connaissez cet événement où Jésus va de nouveau leur faire vivre cette fameuse pêche miraculeuse en leur rappelant « Hé, je vous ai appelé à être des pêcheurs d'hommes, n'est-ce pas ? Vous retournez à la pêche aux poissons ?» Vous vous souvenez comment Jésus va finalement remplir aussi ses filets de poissons et les attendre avec le petit déjeuner sur la plage. Et là, Jésus va retrouver ses amis. Ils n'osent même pas parler directement avec lui parce qu'ils se sentent mal dans leur peau. Et Jésus est content de retrouver ceux qu'il aime. Et c'est là qu'il va s'approcher de Pierre. Dans le même évangile de Jean, au chapitre 21, cet événement nous est rapporté. Il nous est dit au verset 15, « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» puisque ne m'aime ceci. » Cette entrevue avec Pierre est extrêmement particulière. 3 fois, Pierre avait renié publiquement son meilleur ami. 3 fois, en public. « Je vous jure, je ne le connais pas, cet homme-là. » Et 3 fois, Jésus va amener Pierre à exprimer cette fois-ci de nouveau en public l'amour qu'il a pour lui. Mais cette conversation est intéressante. Malheureusement, la langue française ne nous permet pas d'en ressortir toute la richesse parce que nous avons un mot « aimer » en français et que nous employons pour tout. J'aime ma femme, j'aime le chocolat, j'aime Dieu, j'aime mon chien. C'est une qualité d'amour passablement différente, mais c'est le même mot. Dans le Nouveau Testament, il y a des mots différents pour exprimer des qualités d'amour différentes. Jésus demande à Pierre « m'aimes-tu ?» Et Pierre répond, on pourrait traduire ça de cette façon, « Je t'aime bien, Seigneur » ou « Je t'apprécie, Seigneur ». Jésus va lui poser la question une deuxième fois, « M'aimes-tu ? » Et Pierre répond, « Je t'apprécie, Seigneur ». Jésus va lui poser la question une troisième fois, « Tu m'apprécies, Pierre ?» Et Pierre répond, « Oui, Seigneur, je t'apprécie, mais tu sais mieux que moi. » Jésus, par la manière dont il s'adresse à Pierre, lui transmet un message différent. Il se rend compte que Pierre, après ce qu'il a vécu avec lui quelques heures, quelques jours avant, a du mal à le regarder dans les yeux et lui dire « Oui, je t'aime de tout mon cœur ». Difficile quand on a dit le contraire en public un peu avant. Et pourtant, Jésus va essayer d'aller chercher dans son cœur toute cette affection que Pierre a pour lui et qui est vraie cependant. M'aimes-tu ? Pierre va reconnaître qu'il voudrait aimer Jésus beaucoup plus que ça, mais qu'il n'y arrive pas. Et c'est vrai, je m'y retrouve. Je n'arrive pas à aimer le Seigneur Jésus autant que je voudrais non plus. Mais il veut sortir de moi tout cet amour qui se trouve en moi pour lui. M'aimes-tu? En fait, dans cette question se trouve la réponse incluse. Jésus n'est pas en train ici de demander une profession de foi, c'est fait. Jésus n'est pas en train de demander à Pierre d'agir pour lui, il l'a fait. Jésus est en train de lui dire, tout ce que tu fais pour moi, pour quelle raison le fais-tu? Est-ce par amour pour moi que tu fais, Pierre, tout ce que tu fais? Et là, Jésus veut l'amener à comprendre les motifs profonds de son engagement pour Jésus. Est-ce que c'est pour être sauvé? Est-ce que c'est parce que c'est bien de faire comme ça? Est-ce que c'est pour être bien vu dans l'Église, comme quelqu'un qui est là, qui est actif? Est-ce que c'est parce que j'ai peur de ne pas en faire assez? Est-ce que c'est simplement parce que j'ai été éduqué ainsi? Et vous pouvez continuer la liste, mais Jésus demande tout ce que tu fais, tout ce dévouement, tout ce temps que tu donnes, tout cet argent que tu donnes, tout ce que tu donnes de toi-même. Pourquoi le donnes-tu? Il peut y avoir mille et une raisons, à part la bonne raison qui est d'aimer Jésus plus que quiconque. Tout ce que tu fais, est-ce que c'est l'amour du Christ qui te presse pour le faire? Ou y a-t-il autre chose derrière? Je peux être un croyant irréprochable, un adventiste qui fait tout ce qu'un adventiste respectable doit faire, mais ne pas avoir encore au fond du cœur cet amour total pour le Christ qui est la seule véritable motivation pour toute notre action. Et c'est ce que Jésus demande à Pierre. Tu t'es dévoué pour moi. Tu as voulu même me défendre par ton épée. Tu en as fait beaucoup, Pierre. C'est bien. Mais maintenant, fais un pas de plus. Sois bien sûr que la motivation qui te pousse à cette action, c'est parce que tu m'aimes. C'est la troisième question, c'est celle que le Seigneur nous pose aussi à nous, ses disciples d'aujourd'hui. Nous donnons de nous-mêmes, nous donnons de notre temps, de notre argent, de notre énergie, de nos talents. Nous faisons beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais quelle est la véritable motivation qui est au fond de cela? Est-ce l'amour du Christ qui nous presse? Ou autre chose? À différents moments de notre vie, Jésus s'approche et nous pose des questions. Nous avons, nous, plein de questions à lui poser. Les plus importantes sont celles que lui a à nous poser à nous. Aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous ont entendu pour la première fois cette question « Qui dites-vous que je suis ?» Et le Seigneur vous invite à y répondre, à dire et à accepter qui est Jésus véritablement pour vous, votre sauveur personnel, Dieu venu pour vous sauver. Lorsque vous aurez répondu à cette question, il s'approchera de vous pour vous en poser une autre, pour vous dire « Mais maintenant, est-ce que tu veux me suivre jusqu'au bout? Ou est-ce que, après avoir reconnu qui je suis, tu veux t'en aller comme les autres? Vivre ta vie à ta manière? Ou est-ce que tu veux me suivre, obéir jusqu'au bout, même si tu ne comprends pas? T'engager pratiquement dans une vie chrétienne active et conséquente? » C'est la deuxième question qu'il nous pose. Et lorsque nous aurons répondu à cette deuxième question, il viendra et nous dira « Tout ce que tu fais pour moi, je l'apprécie. Mais quel en est le motif profond? Est-ce par amour que tu le fais? Par amour du Christ? Ou pour l'amour de toi, de ta réputation ou d'autre chose? » Trois questions qui jalonnent notre vie chrétienne et notre marche avec lui. Trois questions qui nous bousculent et qui nous poussent dans une relation plus étroite avec lui. Trois questions qui nous amènent à faire chaque fois un pas plus près du Christ. Trois questions qui nous amènent aussi à le servir mieux et à lui ressembler davantage en attendant qu'il revienne. Si vous avez entendu aujourd'hui l'une de ces questions, je vous en prie, répondez au Christ. Amen.